journal. Estelle Schmitt, bonjour Estelle.
Bonjour. Attirer l'attention d'Emmanuel Macron à quelques heures de l'allocution du président de la République. Ce soir, nouvelle manifestation hier contre le racisme et les violences policières. Rassemblement également de policiers qui, eux aussi, veulent être entendus par le chef de l'État. Emmanuel Macron qui devrait présenter la troisième étape du déconfinement, très attendu par le monde de la nuit, on le verra. Attendu au tournant par les syndicats qui espèrent un soutien à l'emploi et au pouvoir d'achat. Les municipales, second tour, dans deux semaines, élection pour un seul siège dans plusieurs communes de l'Oise. Politique et santé, voilà le programme à partir de 8h20, Pierre.
Absolument, avec nos invités, Aurélien Taché, député du Val d'Oise, ex-membre de La République En Marche. Il a rejoint le groupe Écologie, Solidarité et Démocratie. Et puis nous recevrons Dominique Costagliola, qui est épidémiologiste. Avec elle, question sur les recherches, sur les traitements contre le Covid-19, les médicaments anti-Covid, le vaccin possible et bien sûr le rythme du déconfinement. Si vous voulez interroger nos invités, vous appelez dès maintenant le standard, le 01 45 24 7000.
Et à propos de vaccin, 400 millions de doses d'un futur vaccin contre le coronavirus réservé par la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas accordent avec un groupe pharmaceutique. Pratiquer l'ultra-trail en mode écolo, rencontre avec un sportif engagé. Pétillante et toujours pas la langue dans sa poche, Esther de Riyad Satouf, tome 5 est sorti. Esther a bien grandi. Et puis le Puy-de-Dôme toujours en vigilance orange pour risque de crue. Le point avec Météo France après ce journal.
France Inter.
Difficile, voire impossible pour le chef de l'État de ne pas aborder le sujet. Ce soir, allocution d'Emmanuel Macron à partir de 20h, nouvelle étape du déconfinement sur fond évidemment de manifestations contre le racisme et les violences policières. Rassemblement hier à Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris où près de 15 000 personnes selon la préfecture de police, bien plus selon les organisateurs, étaient réunies place de la République à l'appel du comité Adama Traoré, ce jeune homme noir mort en 2016 après son interpellation. Manifestation calme malgré quelques projets et lacrymogènes, et l'occasion surtout, Boris Allier, de s'adresser directement à Emmanuel Macron.
Leur première manifestation a d'abord fait réagir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a interdit la clé d'étranglement.
On veut que toutes les techniques d'immobilisation que j'appelle mortelles soient interdites.
Pour Assa Traoré, figure du mouvement, Emmanuel Macron doit aller plus loin.
On demande à ce qu'il protège son peuple. Il est garant de notre sécurité. Il est garant qu'il n'y ait pas de violence policière. Il est garant qu'il n'y ait pas de violence raciale. Nous attendons un discours clair de sa part.
Une allocution qui sera donc suivie avec attention, notamment par Romuald, pour qui le chef de l'État ne doit pas faire l'impasse sur la mobilisation.
Oh, bien sûr, il faut qu'il en parle. Je ne lui demande pas de prendre position, mais d'essayer quand même de donner une ligne à la population, parce que le silence, ça veut tout dire.
Un message d'apaisement, mais pas seulement. Voilà ce qu'attend Catherine, sans trop d'illusions.
Emmanuel Macron, c'est un pro de la com. Je pense qu'il va encore utiliser des éléments de langage, il va tergiverser, etc., pour dire qu'on est dans un état de droit, qu'on est tous à égalité. C'est faux. On le sait, on le voit, on le vit. C'est totalement faux. Donc je pense qu'il va peut-être en parler rapidement. Il va forcément en parler parce que je pense, à mon avis, la rue, à mon avis, fait peur à l'exécutif.
Et parmi les revendications du comité Adama Traoré, la suppression de l'IGPN, la police des polices.
Un reportage signé Boris Allier. Quelques heures plus tard, vers minuit, à plusieurs dizaines de policiers manifestaient devant l'Arc de Triomphe, mécontents des annonces de leur ministre Christophe Castaner. Ils veulent être reçus par Emmanuel Macron. Aux États-Unis, alors que la colère après la mort de George Floyd n'est pas retombée, un Afro-Américain de 27 ans tué lors d'une confrontation avec la police à Atlanta. C'était vendredi soir. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. La chef de la police a démissionné. En France, le président de la République donc s'exprime ce soir à 20h, allocution à suivre en direct sur Inter. Quatrième prise de parole depuis le début de la crise du coronavirus qui a mis le pays à l'arrêt. Emmanuel Macron devrait exposer ses projets de redémarrage du quinquennat, de redémarrage de l'économie aussi. Une méthode, en somme, les syndicats l'attendent. Voici ce qu'espère Laurent Escure, le patron de l'UNSA.
On a besoin d'un plan de relance et de soutien à l'activité. Et je mets deux clés, c'est-à-dire le soutien à l'emploi et le soutien au pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on a besoin de mesures facilitant l'emploi des jeunes, permettant de sauvegarder l'emploi dans les entreprises, permettant que les entreprises aient à nouveau confiance pour embaucher. Et de l'autre côté, on a besoin qu'on aille relancer la consommation. Et on a peut-être besoin que les plus précaires, les plus bas salaires et ceux qui bénéficient des minima sociaux aient des aides qui leur permettent de consommer, de refaire partir la machine dans le bon sens. On met un paquet d'argent public sur la table pour essayer de sauver la situation, il faudrait pas que on s'arrête à mi-chemin et au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on a besoin là d'un lourd investissement pour éponger cette crise et pour préparer la suite. Et il faut absolument qu'on n'ait pas peur des déficits publics pour aller aider notre appareil productif, pour aller supporter et aider les entreprises comme les salariés, et on fera les comptes après.
Laurent Escure, secrétaire général l'UNSA avec Hélène Filly, la crise du coronavirus qui devrait coûter près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires à la SNCF selon son PDG Jean-Pierre Farandou dans le journal du dimanche. Il estime la perte à 5 milliards en prenant en compte les grèves contre la réforme des retraites. Et puis à propos de réforme des retraites, Emmanuel Macron n'exclut pas de reprendre le chantier de la retraite par points. Le chef de l'État qui devrait également aborder dans son allocution de ce soir la troisième phase du déconfinement à partir du 22 juin. Assouplissement peut-être des règles sanitaires dans les écoles, levée de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, d'autant que le Conseil d'État a rétabli hier soir la liberté de manifester, réouverture également des cafés et restaurants en Ile-de-France et pas uniquement terrasses, les professionnels l'attendent de pied ferme. Autre milieu qui espère pouvoir rouvrir, les discothèques. Les patrons attendent une date évidemment, mais également des conditions de réouverture. Charlotte Coutard a rencontré le propriétaire du Cara Club 53 à Château-Gontier sur Mayenne. Il accueillait 600 personnes tous les week-ends avant le confinement.
Aucun bruit, aucune musique, aucun danseur sur la piste depuis 3 mois.
Ouais, c'est long. Bah, on est chez nous, à tuer le temps comme on peut. Mais c'est vrai qu'on a hâte de retrouver nos clients, hein, parce qu'on en croise et ils nous disent, bah alors, vous rouvrez quand? Est-ce qu'on est pressé? Enfin, on leur dit qu'on est aussi pressé qu'eux.
Pressé de rouvrir, oui, mais pas à n'importe quelle condition.
Si on doit faire respecter les distanciations sociales, les masques, tout ça, c'est vrai que ça va être compliqué. Donc, dans nos métiers, je pense qu'il faut qu'on puisse ouvrir dans des conditions quasi normales.
Car selon Maurice Derouet, une ouverture à minima ne serait pas rentable. Son établissement peut accueillir jusqu'à 600 personnes.
On a 10 salariés propres à la société, plus 7 par une société de sécurité externe. Donc si on ouvre l'établissement complet, il faut garder cet effectif-là. Si c'est pour avoir 2 fois moins de clients, c'est clair que ça va être compliqué.
Compliqué car Maurice devra payer le loyer et ses charges, près de 20 000 euros par mois.
Les 3 mois et demi d'inactivité, le loyer, même si on ne le paye pas aujourd'hui, il faudra les payer demain. Hein. Donc quand il va falloir... payer ces retards-là, oui, ça va faire encore un trou dans la trésorerie.
Alors s'il ne peut pas rouvrir complètement sa discothèque, Maurice préfère attendre.
Si déjà pour mi-juillet, on pouvait rouvrir normalement, ça serait super, quoi. Et voilà, qu'on reparte normalement.
Maurice espère que s'il ne rouvre pas alors qu'il a le droit, mais à minima, les mesures de chômage partiel seront quand même maintenues.
Charlotte Coutard de France Bleu, Mayenne.
Estelle Schmitt, ce soir, dans son allocution, Emmanuel Macron devrait également confirmer la date du second tour des élections municipales le 28 juin.
Oui, 5000 communes concernées, début de la campagne officielle demain, des grandes villes mais également des plus petites. Dans l'Oise, par exemple, 21 communes ne doivent élire qu'un seul conseiller municipal au second tour. Illustration à Verderel, les Soqueuses, élection pour un seul siège, Elia Bergel.
Mathieu Autin, 31 ans, fait partie des candidats encore en lice. Pour se démarquer, il compte sur le porte-à-porte, mais masque sur le visage et gel hydroalcoolique sur les mains.
Bonjour Madame Gallet.
Bonjour Monsieur Autin Mathieu.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Pour ce second tour à Verderel, les Soqueuses, ils sont encore 6 pour une place. Dans cette commune de 750 habitants, il n'y a pas d'opposition. Mais ceux qui veulent rejoindre l'équipe municipale doivent faire campagne seuls. Résultat, beaucoup de candidats, des voix diluées et un siège encore vide. Donc, un drôle de second tour dans un contexte de crise sanitaire. Marcel Dufour, le premier adjoint sortant, appelle tout de même les habitants à voter.
Le travail qu'on fournit pour la commune, si les gens ne viennent pas voter, ça veut dire qu'ils s'en foutent un peu. Donc c'est dommage qu'on s'investisse et qu'on passe du temps et qu'on ne soit pas suivi par la population.
Au premier tour, la participation était de 60% et les habitants assurent qu'ils veulent remettre le couvert le 28 juin.
Je serai là, j'aurai voté, c'est un devoir civique et puis c'est tout.
Je pense qu'il est bon de faire un choix quand on nous le propose et non pas se plaindre après parce que les conseillers élus ne donnent pas satisfaction.
Il faut se déplacer. Qu'on vote blanc ou n'importe, faut se déplacer.
Verderel les Soqueuses est d'ailleurs la seule des 53 communes de l'agglomération de Beauvais sans conseil municipal élu, ce qui bloque l'élection de tous les délégués communautaires.
Second tour des municipales alors que le nombre de personnes hospitalisées en réanimation en France est toujours en baisse. Le coronavirus a tué 29 398 personnes en France depuis le 1er mars et toujours l'espoir d'un vaccin le plus rapidement possible. Les scientifiques du monde entier y travaillent et l'Union européenne qui ne veut pas dépendre d'un pays hors Union pour obtenir les futures doses. D'où cet accord signé par la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. Précision à Bruxelles de Laxmi Lotha.
Le laboratoire assure que l'expérimentation d'un vaccin contre le coronavirus est actuellement à une phase avancée. Il s'agit d'un groupe pharmaceutique suédois et britannique. Le contrat signé avec la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas porte sur la fourniture de 400 millions de doses. On attendrait même ce vaccin dès la fin de l'année, selon les autorités allemandes. L'Union souhaite garantir son accès aux futurs vaccins. Les États membres se sont rendus compte de leur dépendance à la Chine ou l'Inde concernant les médicaments pendant la crise du Covid-19. L'UE fait donc le choix d'investir, comme le font les États-Unis, dans une entreprise qui semble prometteuse. Vendredi, les ministres de la Santé européens ont aussi donné mandat à la Commission pour pouvoir négocier en leur nom des précommandes mutualisées. Les États-Unis ont déjà réservé près d'un tiers de doses du futur vaccin auprès de ce groupe pharmaceutique.
Déconfinement, ouverture des frontières, la France les ouvre demain aux autres pays de l'Union européenne, les autres pays de l'Union font de même, enfin pas l'Espagne qui va d'abord recevoir des touristes allemands dans les îles Baléares. C'est un projet pilote, explication Marie-Hélène Ballestero.
Pour ceux qui souhaitent passer leurs vacances en Espagne, il faut attendre le 1er juillet. Les autorités espagnoles ont annoncé que le tourisme international vers l'Espagne pourrait reprendre à partir de cette date, avec la levée des restrictions d'entrée sur le territoire et la suppression de la quatorzaine qui avait été mise en place le 15 mai. D'ailleurs, le ministère espagnol du tourisme a lancé cette semaine une campagne vidéo sur les réseaux sociaux sous le slogan « L'Espagne vous attend » afin d'attirer les visiteurs internationaux à partir du 1er juillet. L'Espagne est prête à recevoir les touristes étrangers dans des conditions de sécurité et elle le fera avec affection et hospitalité comme toujours, a souligné Isabel Oliver, la secrétaire d'État au tourisme. Quant aux voyageurs venant en France depuis l'Espagne, rappelons qu'ils sont invités depuis le 25 mai à effectuer une quarantaine volontaire par réciprocité au système établi par le gouvernement espagnol. Cette mesure devrait prendre fin le 21 juin. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Il est 8h12, elle a été repoussée pour cause de coronavirus. Et bien ça y est, la sortie enfin du tome 5 des cahiers d'Esther de Riad Satouf et Steph Schmidt.
La petite fille que l'auteur suit depuis ses 9 ans n'en est plus vraiment une. C'est une ado qui fête ses 14 ans à la fin de l'album. Forcément, ses préoccupations ont changé. Amour, politique aussi, toujours autant savoureux, Jacqueline Pétrose.
Ne jamais oublier que ces petits récits du quotidien sont d'abord des histoires vraies. Et elle a bien grandi, Esther. Dans cet album, elle entre en troisième et dans l'adolescence, pas facile. Elle découvre le machisme, les mains baladeuses qui la mettent très très en colère. Elle devient un peu écolo, amoureuse, sensible, découvre la gentillesse et la politique avec parcimonie, mais elle s'emballe pour les gilets jaunes. C'est rafraîchissant, très instructif aussi sur la façon dont certains jeunes voient l'actualité. Il y a toujours des moments poignants où la réalité du monde la bouleverse, comme la vie des SDF, la solitude des enfants ou le traumatisme de l'agression d'un touriste. Mais Esther est pétillante de vie, en mode LOL avec ses copines Léa et Eva, un trio irrésistible. Depuis le tome 1, Riad Satouf, en suivant l'évolution d'Esther, dessine aussi le monde qui change. On guette avec lui les signes de l'adulte qu'elle sera. Et puis, petit pincement au cœur, cette dernière page, la silhouette d'Esther qui s'affine, le léger maquillage et le sourire sans bague. Elle le dit elle-même, le temps passe, ça y est, avec le tome 5, Esther n'est plus une petite fille.
Jacqueline Pétrose et les cahiers d'Esther, tome 5 de Riad Satouf chez Alary Éditions. Les sports, 4-0 hier soir pour le Barça face à Mallorca, reprise du championnat espagnol de foot après 3 mois d'interruption. En France, la fin de 2 histoires au PSG. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, confirme dans le journal du dimanche les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani. Et puis comme pour beaucoup de sportifs, c'est une année blanche pour les adeptes de l'Ultra Trail, ces courses à pied de l'extrême, toutes annulées les unes après les autres après à cause du coronavirus, notamment celui du Mont Blanc, ce qui incite certains sportifs à réfléchir à l'avenir de ce genre de compétition, comme Xavier Thévenard, qui veut désormais mettre en pratique son engagement écologique. Jérôme Val l'a rencontré à Chamonix.
Courir dans la montagne, au contact de la nature, Xavier Thévenard, 32 ans, a depuis longtemps un engagement en faveur de l'écologie. Ce confinement a poussé encore plus loin sa réflexion, au point de se demander si prendre le départ d'une course à l'autre bout du monde a encore du sens.
C'est pas concevable de dire, aujourd'hui, est-ce que je fais 15 000 bornes d'avion pour aller courir à l'autre bout de la planète, pour faire un trail de 170 bornes et revenir? À l'heure actuelle, c'est plus trop logique. Je pense pas aller aux États-Unis puisque j'ai dit que je prendrais plus de long courrier.
Xavier Thévenard ne veut pas passer pour un donneur de leçons, affirmant lui-même n'être pas toujours irréprochable. Mais il faut savoir faire des choix forts, estime le triple vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc.
Les courses phares en Europe, c'est Chamonix, c'est l'UTMB. Puis en plus, on a plein de belles courses dans les Alpes ou à proximité que j'ai encore jamais fait, donc déjà faire celle-ci, j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour courir, quoi. Je m'éclate très bien ici.
Il faut aussi, selon lui, que les sportifs donnent l'exemple.
C'est aussi aux sportifs et aux athlètes de donner leur point de vue, leurs convictions, et puis de se regrouper, de se réunir, ce qu'on essaye de faire un petit peu dans le trail, pour justement arriver à limiter ces déplacements, faire en sorte qu'il y ait une seule grosse course à un moment, et puis qu'on ne soit pas réparpillé sur l'ensemble du globe.
Xavier Thévenard pourrait faire sa rentrée en compétition en octobre avec les Templiers, une course qui a lieu à Millau dans l'Aveyron. En attendant, il boucle à Chamonix une semaine d'entraînement, 31 heures à courir en 6 jours au pied du Mont Blanc et ses neiges éternelles.
Voilà, 31 heures à courir en 6 jours au pied du Mont Blanc. On y va, Patricia Pierre ?
Oui, je ne suis pas sûre qu'on y arrive, mais...
C'était le journal d'Estelle Schmitt, Le Temps en ce dimanche.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Les prévisions sont signées Jean-Michel Golinski de Météo France.
Aujourd'hui, le temps va rester très variable avec des averses sur le quart nord-ouest, notamment du centre à la basse Normandie et de la Bretagne aux Charentes, avec un vent modéré sur les côtes et la possibilité d'un orage dans le courant de l'après-midi. Des averses vont également se déclencher du Jura aux Alpes et sur les Pyrénées, alors que partout ailleurs, le ciel de la journée sera calme et ensoleillé. Et près de la Méditerranée, le vent turbulent, en particulier des côtes varoises à la Corse, va maintenir un horizon bien bleu. Ce matin, il fait généralement entre 11 et 15 degrés en plaine, jusqu'à 19 sur la Haute-Corse et le Roussillon. En journée, le maximum sera de 27 degrés vers Montpellier, Nîmes et Marseille, le minimum de 20 à Tours, Mulhouse, Cognac et Brest. Ailleurs, la moyenne de l'après-midi sera de 23 degrés.